Alors, rebonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans cette autre, on est rendu à la troisième partie de notre vidéo de formation Code d'honneur pour acheteurs. Et dans cette troisième partie, nous allons regarder particulièrement la consultation, donc votre rendez-vous, la première fois que vous rencontrez en personne votre client acheteur au bureau ou à la maison. Et l'objectif de cette troisième partie, c'est de venir vérifier principalement si votre acheteur, justement, avec son profil, bien entendu, si on a bien compris ses attentes, ses besoins, mais particulièrement, je m'excuse, venir voir s'il est motivé, qualifié et sérieux dans sa démarche. Donc, on a réussi à avoir un rendez-vous. Si vous avez réussi à avoir un rendez-vous, c'est parce que vous avez considéré que l'acheteur avait un potentiel. Maintenant, première rencontre, c'est vraiment pour venir définir si vous allez continuer à travailler avec cet acheteur-là. D'abord, c'est pour ça qu'on va venir voir s'il est vraiment motivé, qualifié et sérieux. Donc, vous avez toujours votre guide du participant. Encore une fois, moi, je suis la présentation avec vous. Je m'assure qu'on est synchronisé. Et c'est ici qu'on part tout de suite pour la première consultation, le premier contact. Ce que je vais venir partager avec vous, c'est encore une fois l'art de poser des questions, mais ici, plus pertinemment pour des objectifs bien précis qui vont venir vous aider à qualifier. Et là, quand je parle de qualification, c'est plus particulièrement au niveau de sa motivation, au niveau de son intention et au niveau de sa capacité. Alors, c'est le genre de questions qu'on doit poser dans la conversation pour venir valider justement la qualification de votre acheteur, de votre client potentiel. Donc, si durant la conversation, vous entendez souvent votre client dire, par exemple, « Mais là, je veux que tu le saches, là, moi, je veux pas être poussé dans le dos, là, j'ai pas envie de vivre de pression, là, je suis pas pressé, puis il y en a pas d'urgence. » Sûrement que ça vous est arrivé de rencontrer des acheteurs qui viennent toujours vous dire à toutes les 5 minutes, « Je te le dis, là, arrête ça, là, va pas trop vite, là, pas d'urgence, pas pressé, je suis pas pressé, on a tout notre temps devant nous autres. » Alors, soyez certains d'une chose que si vous entendez souvent dans la conversation, particulièrement dans le premier contact, l'expression « je suis pas pressé » puis il n'y a pas d'urgence, il y a une petite alerte là, que vous allez devoir allumer ou vous occuper parce que ça se peut que le client soit vraiment pas pressé puis qu'il n'y a pas d'urgence, mais ça se peut aussi que le client vous mentionne souvent le pas pressé, pas d'urgence parce que il y a une sorte d'insécurité. C'est pas rien quand même de vouloir se réaliser à acheter une propriété. L'insécurité, c'est normal de l'avoir. La peur, l'inconfort, sortir de la zone de confort, c'est quand même des gros montants. Donc, pour se protéger, ça peut arriver que votre acheteur vous dise « Moi, je suis pas pressé, c'est pas urgent, je veux prendre mon temps. » Ça peut juste simplement dire « Je veux faire ça comme il faut. Je veux être sûr de pas me tromper. Je veux prendre le temps de le faire. » Mais pour être sûr que c'est ce qu'il veut dire, vous allez devoir intervenir dans, justement, son inquiétude, que ce ne serait d'abord pour venir clarifier ça entre vous et votre client, mais en même temps, surtout pour le rassurer dans la démarche. Donc, faites juste lui dire la phrase suivante. Moi, c'est une réponse que j'ai appris avec un autre de mes coachs parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai suivi une tonne de formations que j'ai mis en application, puis il y en a plus que d'autres que j'ai mis en application. Alors, un client acheteur qui me dit « pas d'urgence, pas pressé », je vais juste lui faire prendre conscience de qu'est-ce qui pourrait arriver sur le terrain. Donc, je lui réponds de la façon suivante. Vous savez, monsieur, madame le client, il existe d'ailleurs plusieurs propriétaires qui peuvent prendre le temps ou attendre de se trouver un acheteur. Mais il y a quelques maisons pour lesquelles on va devoir agir rapidement compte tenu de la motivation des propriétaires qui veulent vendre rapidement. Je vais donner des exemples. Il y en a qui séparent, il y en a qui ont des problèmes financiers, il y en a qui doivent déménager à l'extérieur de la ville pour le travail. Donc, c'est certaines maisons, ces propriétaires qui habitent dans ces propriétés, ils ont des motivations plus élevées qui pourraient représenter des opportunités. Donc, juste emmener à votre acheteur, sans vouloir essayer de l'influencer plus qu'il faut, mais surtout pouvoir le positionner, puis vous comprendre ce qu'il veut dire dans « je suis pas pressé, puis c'est pas urgent ». Alors, posez-lui la question après l'avoir positionné dans ce contexte. Est-ce que vous êtes intéressé à ce que je vous présente ces propriétés dont je vous parle? Ou est-ce que parce que vous me dites que vous êtes pas pressé, puis que c'est pas urgent, ces propriétés-là qui pourraient être une opportunité, je vous en parle pas, je vais en parler à d'autres acheteurs qui, pour eux autres, veulent aussi bénéficier de l'opportunité. Bon, je joue un petit peu avec les mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Et soyez certains que quand vous allez avoir positionné votre acheteur, s'il est sérieux, hein, mais qu'il a juste peur, finalement, qu'on aille trop rapidement, c'est certain qu'il va vous dire, mais non, je veux que tu m'en parles. C'est juste que, bon, je veux prendre le temps quand même de prendre des bonnes décisions. Et pour cette partie-là, ça va être comme une chose réglée dans votre esprit. Une autre façon de poser des questions pour venir qualifier, venir voir la motivation de votre client acheteur, c'est, le genre d'acheteur qui va vous dire à tout bout de champ, durant le processus des visites ou durant le processus de venir voir c'est quoi ses besoins, ou de venir voir une liste de propriétés pour venir faire une sélection de propriétés, puis qu'on se rend compte qu'il est peut-être un petit peu difficile ou moins réaliste dans ce qu'il recherche. Alors, quand il vous dit, ah, ben fais-toi-en pas avec ça, prends ton temps, si jamais je la trouve pas ou elle s'est pas là présentement, c'est parce que c'est un signe, hein. Je sais pas si tu crois au signe, toi, mais moi, j'y crois au signe. C'est peut-être juste parce que elle est pas là encore, ouais, pas pour moi. Si j'en manque une, c'est parce qu'elle était pas pour moi. Moi, je suis certaine à quelque part là, que ma maison là, elle m'attend dans l'univers. Il y a une maison à quelque part, là, j'imagine ces couleurs-là, est dans l'univers. Je sais que j'exagère, là, mais j'ai déjà rencontré des clients qui vraiment attendaient ou dessinaient leur maison dans l'univers. Mais entre vous et moi, l'univers, hein, puis l'univers, il faut être certain que notre client, est-ce qu'il va attendre combien de temps, puis pendant combien de temps dans l'univers cette propriété? Parce que vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous voulez bien respecter votre client, mais à quelque part, il faut aussi être efficace, que ce ne serait-ce que pour aider votre client à prendre cette décision. Des fois, souvent, c'est parce que ils ont peur de prendre la décision ou de vraiment s'investir dans la démarche parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'immense comme projet. Donc, vous pouvez répondre quelque chose du genre, pour que je sois vraiment en mesure de mieux comprendre ce que vous recherchez. Et ce que je vous avance ici, les professionnels de l'immobilier, je m'arrête tout de suite dans l'intervention, c'est juste pour venir voir jusqu'à quel point hein, votre acheteur est sérieux et est motivé à court terme okay, de vouloir s'acheter une propriété. C'est vous ensuite qui allez décider si, exemple, bon, ça va prendre 6 mois, 1 an, ou celle qui n'existe pas, on va la trouver ensemble. C'est dans ce sens-là que vous allez intervenir pour que ensuite vous allez prendre la décision si vous avez envie ou si c'est pas une question d'envie, c'est une décision d'affaires finalement pour venir voir si vous allez vous investir de votre temps et de votre argent avec cet acheteur potentiel. Donc, on répond, alors s'il dit c'est un signe, bon, elle est dans l'univers, je sais que t'as moi, elle m'attend, répondez de la façon suivante pour en savoir davantage sur son intervention. Pour que je sois en mesure de mieux comprendre ce que vous recherchez, monsieur, madame le client, est-ce que vous avez déjà vu ou visité, avant de me rencontrer, une maison qui répondait, mais qui répondait vraiment à vos besoins? Et s'il vous dit oui, s'il vous répond positivement à la réponse, demandez-lui que s'est-il passé exactement au sujet de cette maison qui répondait exactement à vos attentes. Ou demandez-lui qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette maison pour que vous ne l'ayez pas achetée. Et réfléchissez, observez, analysez sa réponse. Alors donc, ça se pourrait que ce soit parce que, bon, il a eu peur ou il n'était pas certain, ou mais il y a toujours le sens du jugement ou du discernement. Mais si ça continue par « bon, on n'était pas prête, finalement, il y avait un signe dans l'univers que c'était peut-être la mienne, mais il me semble qu'il y avait un autre signe dans l'univers que c'était peut-être pas le bon moment. » Bon, je sais que c'est pas tout le temps, puis une chance, c'est pas en majorité du temps, mais parfois, je parle surtout pour les courtiers qui ont peu d'expérience, il faut être capable de discerner, hein, mais surtout de venir choisir votre client potentiel, parce que sinon, vous risquez de... Et c'est correct si vous décidez de le faire quand même, vous le faites en connaissance de cause, puis c'est correct aussi, je ne suis pas en train de vous dire balayer les acheteurs qui ne sont pas sérieux, ni motivés, ni qualifiés, qui vont juste vous demander beaucoup plus de temps. mais il faut quand même être conscient, puis de pas arriver deux semaines, trois mois, six mois plus tard, que finalement, vous en pouvez plus de cet acheteur-là. Vous aurez fait les démarches et vous allez avoir pris la décision de quand même vous en occuper. Donc, c'est la raison pourquoi que ces questions-là deviennent pertinentes. Quand vous allez prendre une décision, vous allez apprendre beaucoup plus en connaissance de cause. Alors, une autre partie importante pour venir voir si votre client, bon, est sérieux, motivé, mais là, beaucoup plus s'il a la capacité de s'acheter une maison. Et c'est peut-être une des parties les plus importantes. Elles sont importantes, les deux autres que je vous ai nommées précédemment, mais celle-ci est vraiment importante. Alors, pour ceux qui ont de l'expérience, vous le savez autant que moi, c'est les ressources financières, la préqualification, à savoir s'il y a la capacité de recevoir un financement hypothécaire. Bon, beaucoup de courtiers immobiliers vont me dire, ben, tu sais, Louis, j'aimerais ça pouvoir peut-être plus intervenir, avoir plus d'influence pour pouvoir superviser justement l'encadrement du financement hypothécaire avec mon client, mais j'y arrive jamais. Vous savez, le plus important, c'est que vous puissiez justement avoir le contrôle sur on a une préqualification, le contrôle sur sa démarche. Bien entendu que avoir le contrôle sur l'ensemble de la démarche, à savoir que vous le référez à votre expert, à votre courtier hypothécaire, à votre représentant en financement hypothécaire, à mon avis, c'est l'idéal. On n'a pas toujours le choix. Pourquoi c'est l'idéal? C'est que souvent, on travaille en partenariat, les courtiers immobiliers, les représentants en services financiers, les courtiers hypothécaires, et c'est même dans l'avantage de tous les intervenants quand vous travaillez en collaboration avec un expert en financement hypothécaire. Mais c'est pas toujours le cas. Et parce que c'est pas toujours le cas, il faut être capable de poser des questions. Donc, au fur et à mesure que vous êtes dans votre première rencontre, que vous posez des questions, que vous sentez que bon, on a une motivation, que bon, nos peurs sont passées de côté, rapidement poser la question, est-ce que, au fait, vous avez déjà entrepris une démarche auprès de votre banque pour justement venir analyser vos conditions de prêt hypothécaire? Et ou est-ce que vous êtes allé à votre banque pour venir voir si vous avez la capacité d'acheter une maison? Il faut absolument, absolument que vous la posiez, cette question. Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ses finances, mais de poser cette question dans l'intérêt de votre client comme dans votre intérêt et même dans l'intérêt de tous les intervenants de la démarche ou de la transaction. Alors, si votre client, par exemple, dit, ben oui, j'ai rencontré mon conseiller la semaine passée, ou non, je vais le faire plus tard, puis que vous essayez justement de l'emmener vers votre conseiller, vous pouvez peut-être juste tout de suite lui demander, ben au fait, avec quelle banque vous faites affaire? Fait que si, par exemple, on vous dit, pour en nommer deux, avec Desjardins ou la Banque nationale, tout de suite, vous pouvez essayer de l'emmener vers votre représentant, votre expert, votre conseiller, puis lui dire, parfait, bon, vous faites affaire avec Desjardins. Justement, moi, j'ai une proposition à vous faire. On a, nous aussi, un représentant. Vous allez pouvoir avoir une autre opinion. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce que vous me donnez la permission de donner votre nom et vos coordonnées pour qu'il puisse vous rejoindre et venir, justement, vous donner une autre opinion? Donc, ça, c'est une façon de venir l'encourager à consulter un expert. Alors, un acheteur qui va vous dire, ben là, j'ai pas eu le temps, puis de toute façon, quand j'aurai trouvé la maison, je m'occuperai de ça. Alors ça, c'est vraiment dangereux d'aller visiter une propriété sans savoir s'il est préqualifié, mais surtout en sachant que votre client potentiel a pas commencé sa démarche. Donc, il faut absolument chercher à le convaincre à faire cette démarche-là, encore une fois, beaucoup plus dans son intérêt, mais aussi dans l'intérêt de tout le monde. Alors, vous pouvez tout simplement lui dire toujours, je comprends très bien. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup d'étapes. Dans la vie de tous les jours, on a beaucoup de choses à s'occuper. Mais vous savez, monsieur, madame le client, si je vous encourage fortement à commencer dans cette démarche, c'est vraiment dans votre intérêt. Que ce ne serait-ce que pour vous protéger au niveau du taux d'intérêt ou pour justement aller chercher tous les avantages du meilleur taux aux meilleures conditions, de connaître d'entrée de jeu c'est quoi, à quoi va ressembler vos versements, votre capacité d'acheter, mais surtout pour mieux vous représenter quand je vais négocier pour vous, de savoir ou de présenter au propriétaire vendeur que vous avez fait une démarche pour votre financement hypothécaire, nous donne un atout majeur. Je vous dirais qu'aujourd'hui, J'entends de moins en moins de professionnels de l'immobilier qui ont de la difficulté à convaincre un acheteur à venir se faire préqualifier. Si c'est vraiment difficile, posez-vous des questions, parce que c'est vraiment, mais vraiment dans l'intérêt de l'acheteur d'aller chercher une préqualification, et c'est la raison pourquoi c'est pas censé être si difficile de l'encourager à aller chercher une préqualification. Mais il y a une chose est certaine, si vous n'avez pas une confirmation comme quoi qu'il y a une préqualification, chercher davantage à l'inviter ou à avoir sa permission pour que vous puissiez donner ses coordonnées à votre expert, et vous lui dites tout simplement que votre expert va communiquer sans aucune obligation, hein, sans aucun frais, que ce ne serait-ce que de comparer les options ou de comparer ce que même l'acheteur compare sur le site internet, et comme ça, ben, il va pouvoir aller chercher les meilleures conditions et il va pouvoir se protéger avec les meilleures conditions pour son financement hypothécaire. Ensuite, il va vous rester tout simplement à venir lui présenter votre programme, votre offre de service, faire la présentation de votre programme pour justement aller chercher son engagement, pour chercher à le fidéliser. Et souvent, 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 votre acheteur va s'engager même sans contrat, hein, sans contrat d'acheteur, parce que bon, l'idéal, on va dire, on va aller chercher un contrat d'acheteur, mais c'est pas une majorité de courtiers immobiliers qui va aller chercher un contrat d'acheteur avec un acheteur. Quand vous présentez un programme où vous allez lui démontrer toutes les démarches, l'encadrement que vous allez lui proposer, que vous allez lui offrir pour justement trouver sa propriété, vous allez être surpris de voir comment est-ce que l'acheteur va s'attacher avec vous, parce que la relation de confiance va vraiment s'établir. Malheureusement, bon, j'entends souvent des courtiers qui vont dire « Ah, les acheteurs, c'est n'importe quoi, c'est pas fidèle, ça fait perdre notre temps, ils comprennent rien. » Vous savez quoi? Posez-vous la question, qui est à blâmer souvent? Souvent, malheureusement, l'acheteur, là, j'arrête pas de dire souvent malheureusement, je vais arrêter de dire ça, mais plus, j'arrêtais pas de le dire, mais je recommencerai pas. Notre acheteur a pas l'information, ne reçoit pas l'information. Donc, comment voulez-vous qu'il vous respecte? Comment voulez-vous qu'il s'engage? Comment voulez-vous que il puisse vraiment entretenir cette relation comme vous la voulez si vous lui donnez pas l'information ou si vous lui donnez pas la démarche à suivre pour maintenir et respecter l'engagement? Donc, vous devez lui présenter votre programme. Votre programme, c'est votre code d'honneur en l'occurrence. C'est votre proposition de valeur. Dans un programme, vous devez être capable de venir démontrer que vous allez respecter ses besoins, que vous allez respecter ses attentes, que vous allez lui offrir de la valeur à titre d'expert avec vos ressources, vos informations, vos alliances stratégiques, que vous allez être capable de pouvoir lui décrire et même de lui montrer le contenu des formulaires légaux, d'une promesse d'achat, des documents de référence qui va pouvoir le protéger dans sa transaction, d'être capable de lui de l'informer sur tout le processus de la démarche. Et c'est vraiment important, cette partie, parce qu'on prend pour acquis que notre client acheteur a compris. Donc, tout lui expliquer le processus de comment ça fonctionne les visites, comment ça fonctionne les visites libres, comment ça fonctionne le réseau des courtiers immobiliers. Si un acheteur vous appelle puis qui vous dit à un moment donné « J'ai trouvé la maison de mes rêves », puis que là, vous lui demandez l'adresse, puis que dans la conversation, vous apprenez qu'il l'a déjà visité, c'est peut-être qu'à quelque part, dans la première rencontre, vous ne l'avez pas suffisamment informé. Ou peut-être que s'est passé quelque chose qui a fait que l'acheteur a manqué. Ça se peut. Sauf que donnez-vous une chance. Dans cette consultation, vous devez vraiment mettre les barres CT et les points saisis si vous voulez vous faire respecter et si vous voulez que votre acheteur, finalement, entre dans cet engagement que vous voulez obtenir. Une dernière chose que je trouve très importante, à chaque fois que vous avez une rencontre avec votre client acheteur, là vous avez une première rencontre, mais il va y avoir des blocs de visite, faites en sorte qu'il y ait toujours une prochaine rencontre de planifier. Et c'est ce que moi j'appelle l'engagement moral. Donc, si vous avez terminé la première rencontre, on ouvre nos agendas, on ouvre notre horaire pour fixer la prochaine rencontre. On a terminé un bloc de visite, on n'a pas encore pris une décision, il va y avoir un autre bloc de visite à Attendez pas que, bon, on se rappelle la semaine prochaine. Tout de suite, vous allez fixer une autre rencontre et c'est une façon de contrôler l'engagement et de garder justement cet engagement, cette relation avec votre client acheteur. Alors, dans un programme, code d'honneur, proposition de valeur pour présenter vos services, puis qui va servir vraiment à fidéliser votre clientèle, ce que vous devriez avoir dans le contenu de ce programme, à mon humble avis, hein, il peut y avoir une tonne de choses, mais trop comme se passer, aller chercher aussi l'essentiel, puis qu'est-ce qui vous convient, hein, qu'est-ce qui répond plus à vous comme professionnel. Mais à mon avis, vous devriez avoir quelque chose qui vient vous présenter en tant qu'expert, qui représente, je m'excuse, votre équipe, votre agence immobilière, parce que vous êtes une équipe, et de voir que vous avez une équipe qui travaille avec vous, donne beaucoup d'assurance à votre acheteur, que vous travaillez dans un centre d'affaires, voyez-vous, je ne dis pas un bureau ni une agence, mais plus un centre d'affaires immobilier avec une équipe multidisciplinaire. Donc là, je parle de toutes vos alliances stratégiques, notaires, inspecteurs, représentants, services financiers, courtiers hypothécaires, être capable de lui présenter un plan de match étape par étape où il va se sentir encadré, être capable de venir voir que il est possible qu'on va analyser ou qu'on va modifier les besoins qui vont répondre davantage à ses attentes, d'être capable de lui démontrer que vous allez avoir un processus de recherche automatisé, mais que vous allez garder la relation avec votre client, de lui démontrer que à chaque étape du processus, il peut compter sur vous avec des suivis, des comptes rendus, être capable de planifier les visites, qu'il soit toujours en constante communication, qu'il soit pas en attente, que vous retournez ses appels. Faites-lui part, parce que souvent, il va entendre des histoires, il va avoir déjà vécu des histoires d'horreur avec d'autres professionnels et vous avez à rebâtir une confiance avec notre profession, malheureusement, mais c'est comme ça. Vous allez être de ceux qui vont venir redorer l'image de notre profession, etc., etc. Comment est-ce que vous allez évaluer professionnellement, par exemple, la valeur de la propriété qu'il va choisir pour faire une offre d'achat? Comment vous allez vous y prendre pour le représenter en offre d'achat? Comment est-ce que vous allez le suivre jusqu'à la transaction chez le notaire? Et mieux encore, comment est-ce que vous allez le suivre jusqu'à temps qu'il y ait besoin d'une autre propriété parce que vous allez vous faire un devoir d'être son partenaire pour la vie? Et voilà, ça se trouve à être la... attendez un petit peu, j'ai pas fini ma troisième partie parce qu'il y a une chose bien importante que je veux vous partager juste pour terminer la troisième partie. Je vais vous parler des 7 critères de base qui va venir vous aider à définir si vous allez accepter de travailler avec un acheteur ou si vous allez tout simplement tirer la révérence parce que vous jugez que dans l'intérêt de tout le monde, c'est pas une bonne affaire finalement de travailler avec un acheteur ou un autre. Donc, et ça, c'est les 7 critères, là, c'est partagé entre les leaders, entre les professionnels, entre les coachs et les experts. Alors, je les ai ramassés tous un à un pour pouvoir vous le partager. Alors, le premier critère qu'on nous mentionne, c'est tous les acheteurs doivent être évalués et approuvés par un prêteur sans aucune exception. C'est le premier, à mon avis, un des plus importants. Alors, essayez de choisir en priorité, deuxième critère, vos anciens clients, vos clients vendeurs, hein, que vos clients vendeurs deviennent des priorités comme acheteurs et votre cercle d'influence. Parce que, bien entendu, on le sait, hein, quand on travaille avec des clients qui nous connaissent déjà ou qui connaissent déjà notre expertise, qui a déjà établi une relation, bien, c'est beaucoup plus facile à fidéliser. Troisième critère, idéalement, qu'ils puissent venir vous rencontrer au bureau, mais au moins s'ils viennent au bureau, que vous ayez un rendez-vous à la maison, bien, qu'il y ait une rencontre, une première rencontre avant de commencer un premier bloc de visite. Ensuite, avoir un niveau de motivation élevé. Donc, faut mesurer qu'est-ce qu'on entend par niveau de motivation. Souvent, c'est dans combien de temps il veut se trouver une propriété? Dans combien de temps il va vouloir faire l'acquisition d'une propriété? Alors, s'il vous dit, ben ce printemps ou dans 6 mois, pour juillet, par exemple, ici au Québec, parce que les déménagements, c'est le 1er juillet, ben à mon niveau, À mon avis, c'est un niveau de motivation qui est pertinent. 3 à 6 mois, c'est un niveau de motivation qui peut être considérable pour dire que votre client acheteur potentiel est sérieux dans sa démarche, qu'ils ont des attentes réalistes et en accord avec le marché. Donc, bien entendu, vous allez rencontrer des acheteurs qui vont vouloir juste des deals, rien que des deals. Si c'est pour habiter une propriété, puis c'est pas un investisseur ou un spéculateur, juste des deals, tant mieux si on le trouve, sauf que s'il ne veut pas acheter une maison parce qu'il n'y a pas de deal, bien là, vous allez avoir une décision à prendre. Donc, soit que vous le traitez comme un spéculateur, et là, ben, quand on aura le deal, vous y ferez signe, ou vous le positionnez comme un acheteur, un consommateur qui veut habiter une propriété, donc qui va accepter de vouloir acheter une propriété à sa juste valeur. Et c'est déjà une très bonne affaire d'acheter une propriété à sa juste valeur. De visiter 3 à 5 maisons par bloc de visite pour éviter la confusion. Donc, un acheteur qui vous demande d'en visiter 10, 12, 15 parce que, par exemple, je sais pas moi, il sait pas quoi faire un dimanche. J'exagère un peu, là, mais faut juste faire attention à ces éléments déclencheurs pour venir vous avertir si vous êtes avec un vrai client hein, qui se respecte dans la relation et que vous sentiez véritablement son engagement. Et ça, c'est dans les mots, dans les expressions, dans le ressenti et dans votre façon de travailler. D'ailleurs, comment est-ce qu'il va confirmer votre façon de travailler que vous allez ressentir l'engagement si vous n'avez pas un contrat de courtage acheteur. Et si vous avez besoin éventuellement de travailler avec un contrat de courtage acheteur parce que, par exemple, vous devez lui présenter une propriété sans courtier, dites-vous bien que quand vous avez cet engagement, quand vous avez vraiment fait ce travail d'entrée de jeu avec votre client, ce ne sera pas difficile de lui faire signer un contrat de courtage acheteur. Donc, voilà, là, je suis vraiment rendue à la fin de la troisième partie. Et j'ai envie de vous emmener comme ça, là. J'improvise tout de suite dans la quatrième partie avant de faire une pause et on va terminer avec la cinquième partie après la pause. Qu'est-ce que vous en dites? Je me sens en forme, là. OK, donc on y va pour la quatrième partie où je vais vous partager avec vous comment accompagner votre client à prendre des décisions. Pour l'accompagner, je vais aussi vous parler de comment l'accompagner durant les visites de propriété, où vous allez pouvoir faire la différence, où vous allez pouvoir rendre ça agréable, mais pour tous les intervenants. Et vous avez, croyez-moi, besoin de rendre ça agréable pour tous les intervenants, pas juste pour vous et votre acheteur, mais pensez plus loin hein, que quand vous allez interagir durant les visites avec les propriétaires vendeurs ou quand vous allez demander des visites avec les courtiers. Vous savez jamais avec qui vous allez négocier et avec qui vous allez collaborer. Donc, à mon avis, tous les vendeurs, tous les courtiers inscripteurs, collaborateurs doivent avoir une approche, une relation impeccable avec vous. Je sais que c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours gagnant-gagnant, donnant-donnant de tous les professionnels de l'immobilier, mais faites-le dans votre intérêt comme dans l'intérêt de votre client acheteur d'avoir une attitude pour aller gagner plusieurs points à chaque étape du processus. Je vous donne des exemples concrets. Quand vous préparez des visites avec vos acheteurs, d'abord, préparez votre client acheteur à comment va se passer les visites. D'abord, présentez-lui les maisons ou faites un espèce de résumé sommaire des propriétés que vous allez visiter. Hein. Il y a 3 à 5 propriétés avant d'entreprendre la série de visites. Faites-lui mention de comment vous voulez procéder durant la visite, donc les petites consignes pour justement respecter les propriétaires vendeurs, mais que pour surtout que vous puissiez garder le contrôle sur la visite avec les acheteurs. Sûrement que vous avez déjà vu des acheteurs très sociables, OK, puis que quand ils rentrent dans la maison, on a l'impression qu'ils sont déjà chez eux. Donc, juste avertir vos clients acheteurs avant de commencer les visites, de quelle façon vous voulez aborder, la façon que vous voulez visiter. Puis, une chose que moi, j'ai pratiquée pendant des années, qui a été gagnant sur toute la ligne que je partage avec vous, un coup que vous avez donné les consignes, que vous avez parlé des propriétés aux acheteurs, celles que vous allez visiter, les 3 à 5, juste qu'ils puissent les mettre dans l'esprit brièvement. En entrant dans la propriété, on a les propriétaires vendeurs qui se présentent, bien entendu. Vous présentez votre carte, vous vous présentez comme courtier, vous remerciez les propriétaires vendeurs d'avoir accepté la visite et Vous présentez les vendeurs, vous avez souvent le nom des vendeurs, le nom des propriétaires vendeurs. Vous présentez les propriétaires vendeurs à vos clients acheteurs. Vous savez que vous provoquez comme une sorte de relation entre les deux parce que c'est peut-être avec eux qu'on va négocier. Donc, vous avez sûrement entendu ou ressenti à un moment donné qu'il y a des clients qui, des fois en offre multiple, qui ont plus d'atomes crochus avec un comme avec un autre. Mais si on a toujours mis en arrière nos clients, puis on a comme presque fait une barricade pour pas que le client vendeur parle à nos clients, c'est difficile de décrocher des atomes crochus dans ce temps-là. Donc, moi, j'ai toujours fait en sorte pour rendre justement la visite confortable, parce que c'est pas évident. On est des étrangers qui rentrent dans la maison des propriétaires qui sont aussi étrangers. Alors, c'est juste de créer une sorte d'ambiance, de relation. On présente le propriétaire-vendeur au client-acheteur. Et ce que je faisais à tout coup pour vraiment que le propriétaire se sente à l'aise avec ma façon de présenter sa maison, je lui faisais brièvement un résumé de la description de sa propriété. J'avais pris soin de faire ressortir les gros avantages qui, à mon avis, étaient des avantages sur la propriété, donc les faire ressortir. Donc, tout simplement, je disais au propriétaire-vendeur, « Alors, monsieur, madame le vendeur, si vous le voulez bien, on va commencer la visite avec monsieur, madame Forgeron, par exemple, et ce que j'ai fait ressortir de votre propriété plus particulièrement, dites-moi si j'oublie quelque chose. » Et là, je faisais un résumé sommaire, mais surtout des avantages. Et je terminais en disant, est-ce que quelque chose que j'oublie ou est-ce qu'il y a des choses plus importantes encore que je devrais considérer durant la visite de la propriété? Avez-vous des recommandations à me faire ou quelque chose comme ça? Et le propriétaire-vendeur trouvait ça extraordinaire de voir comment est-ce que j'avais fait ressortir les avantages de sa propriété, et ça me donnait toute la confiance du propriétaire pour aller visiter avec les acheteurs. Mais savez-vous quoi? Ce que j'essayais de faire aussi, c'est que les vendeurs puissent rester dans leur pièce pour que je puisse rester seule avec les acheteurs. Donc, ça a plein d'avantages. J'ai trouvé plein d'avantages, OK, à présenter mes acheteurs, à présenter la propriété aux vendeurs. Et en terminant, je leur demandais si on pouvait commencer la visite. Puis pour m'assurer que les vendeurs n'étaient pas pour me suivre durant la visite, je leur demandais toujours, est-ce qu'il y a un endroit en terminant la visite que je peux vous retrouver? Est-ce que ça va être plus dans ici à la cuisine ou dans le salon? Puis souvent, les propriétaires disaient, ben on va être ici dans le salon, là, quand vous aurez terminé, ou si vous avez des questions, ben on sera ici. Il y en a là, qui suivaient quand même dans la visite parce que, bon, on ne peut pas non plus obliger les vendeurs à rester dans une pièce. Mais c'était une façon pour moi pour aller chercher tout ce que j'avais besoin si éventuellement j'avais justement besoin des propriétaires vendeurs pour m'aider dans la transaction. Donc, ça, c'est une façon de vous aider avec le propriétaire vendeur et les acheteurs. Et ensuite, quand vous avez visité 3 à 5 maisons, bon, il va arriver à un moment donné, du moins je vous le souhaite, l'acheteur, il va vouloir choisir, il va vouloir sélectionner. Dites-vous bien que plus il est proche de faire un choix, de faire une sélection, plus le stress va monter, plus la peur va se présenter, et ça va être de plus en plus difficile pour votre client de prendre une décision, et c'est ici que vous allez devoir l'aider. Et on s'entend, là, aider votre client à prendre une décision ne veut pas dire vendre à pression, ne veut pas dire prendre le contrôle pour être contrôlant ou arrogant. C'est ce qu'il attend de vous, votre client acheteur, vos clients acheteurs, de l'aider dans le processus de prendre sa décision. Donc, de venir vérifier s'il aime véritablement la maison. On revoit par rapport à ses attentes, par rapport à ses besoins. De reconnaître, OK, son besoin de vouloir réfléchir, donc de pas faire fi du fait qu'il va avoir besoin de réfléchir, mais s'il vous indique véritablement qu'il a besoin de réfléchir, puis que vous pensez que son besoin va peut-être s'éterniser au risque de peut-être même perdre la propriété, offrez-lui d'aller réfléchir, OK, à la maison avec vous, que vous allez pouvoir les aider en lui proposant de venir voir point par point les critères de la propriété comparativement à une autre. Proposez-lui d'aller vous rejoindre soit au bureau ou de vous présenter à la maison, de venir voir comment est-ce qu'on peut influencer sa décision à choisir plus une propriété qu'à une autre, jusqu'à même lui présenter une simulation, lui proposer que vous allez lui présenter une simulation de la promesse d'achat, parce que là, vous ressentez, vous voyez, vous remarquez que vraiment, il est beaucoup plus axé sur une propriété. Juste lui faire la proposition que on va faire une sorte de simulation de promesse d'achat, où là, il va voir plusieurs points de la promesse d'achat qui va lui permettre justement de réfléchir davantage sur les choses qui l'inquiètent plus. Et souvent, quand on réussit à le faire de cette façon-là, l'acheteur, il se met en position pour être dans l'action de prendre la décision et de faire une offre d'achat. C'est sûr que rendu là, vous allez avoir des objections. Des objections, vous savez, je veux pas trop embarquer dans les objections avec nos acheteurs parce que bon, on n'aura pas assez de temps ou ça va être trop long dans la vidéo de formation. Mais je veux que vous reteniez une chose dans les objections. À chaque fois qu'un client va vous donner une objection par rapport à ne pas aller de l'avant dans sa décision, ben dites-vous bien que c'est une question déguisée en peur, en manque d'assurance, en manque de confiance ou en quelque chose qui ne comprend pas pour prendre une décision. Donc, il faut toujours être capable de la prendre, OK, sur votre charge, cette objection, parce que c'est là où vous avez un rôle de pouvoir répondre à ses peurs, à ses objections, pour pouvoir passer à une étape suivante et avancer dans son processus. Donc, pour être capable de répondre aux objections, il y a une petite stratégie que moi, j'utilise toujours, que ce soit avec les vendeurs ou avec les acheteurs. C'est une stratégie de communication. Alors, c'est simple, on vous pose une objection, peu importe laquelle, OK, que ce soit, c'est un prix trop élevé, je veux une offre plus basse, ou, il va en avoir, là, j'en ai pas devant moi parce que je l'ai pas dans le contenu, là, mais peu importe l'objection, il faut que vous soyez capable de l'écouter réellement. Est-ce que vous l'avez vraiment écouté? Est-ce que vous l'avez vraiment compris, son objection? Analysez l'objection si c'est pas un blocage ou c'est pas quelque chose d'autre qu'une objection, un malaise, un inconfort. Tout simplement, rassurez votre client que vous le comprenez bien, que vous allez vous occuper de son inquiétude et ensuite répondez à l'objection. Obtenez son accord comme quoi que vous avez vraiment répondu à l'objection, qu'il se sent beaucoup plus à l'aise parce que vous avez répondu à l'objection et enchaînez à l'étape suivante. Donc, pour moi, c'est une petite stratégie que j'utilise pour répondre aux objections, qui, à force de le faire, ça devient un automatisme, mais ce qui fait que ça nous permet souvent d'avancer plus rapidement justement accélérer le processus de la décision de notre client acheteur. Donc, ici, pour entreprendre la rédaction de la promesse d'achat, vous allez demander justement à vos clients voir s'ils ont des questions. Vous avez répondu à la plupart des objections. Vous allez lui demander s'ils ont des questions par rapport à la promesse d'achat. Je vous encourage, devant vos clients acheteurs, dans la mesure où c'est possible, quand vous êtes prête à rédiger la promesse d'achat, de communiquer avec le courtier inscripteur, parce que là, vous savez là, que vous allez écrire une promesse d'achat. Là. Vous savez là, que vous allez repartir avec une promesse d'achat signée. De communiquer avec le courtier inscripteur devant les clients acheteurs, que ce ne serait-ce que pour venir voir la motivation du vendeur, d'aller chercher les informations qui vont vous aider justement à remplir la promesse d'achat, mais plus comme à venir présenter votre promesse d'achat, puis en même temps profiter pour prendre rendez-vous. Donc, votre client acheteur va voir tout de suite, ça va le rassurer que vous prenez tout de suite en charge la représentation pour les représenter en négociation. Dans la mesure où si c'est possible, bien entendu, on n'a pas toujours les meilleures circonstances, mais quand c'est possible, je vous encourage d'appeler le courtier inscripteur tout de suite pour prendre le rendez-vous, puis aussi prendre de l'information. Donc, demandez aussi à votre client acheteur s'il se sent à l'aise ou si on peut confirmer davantage votre estimé de la valeur marchande. Donc, vous allez lui proposer un estimé de la valeur marchande pour qu'il puisse se positionner à offrir un prix sur la promesse d'achat. Moi, j'aime bien la stratégie des trois options où on va lui donner la réalité à sa juste valeur. S'il veut faire un prix s'il veut offrir un prix moins que sa valeur, bon, il faut comprendre que on y va dans l'optique où on part d'une offre de départ et qui s'attendent à une contre-offre et de lui montrer qu'est-ce que ça peut représenter au-dessus de sa valeur, parce que peut-être que le propriétaire lui est convaincu que ça vaut plus que la valeur réelle. Donc là, je vous présente rapidement une stratégie en trois options. Une chose est sûre, c'est que c'est pas vous qui allez décider le prix que votre acheteur va vouloir payer, mais vous allez devoir l'influencer, bien entendu, parce que vous êtes l'expert. Donc, si votre client acheteur, la plupart du temps, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est offrir le plus bas. Moi, ce que je propose, c'est de l'informer, de le mettre dans le fond, dans la position du vendeur, que si on lui offrait la stratégie du prix stressant. Le prix stressant, c'est un prix très proche, sinon à sa juste valeur. Donc, pourquoi? Parce que un propriétaire qui va voir justement une offre d'achat de départ à sa juste valeur va avoir beaucoup plus, il va vivre un stress de faire une contre-offre ou c'est sûr qu'il ne refusera pas à sa juste valeur, à moins qu'il soit complètement irréaliste dans le prix. Donc, je vais inviter l'acheteur à faire justement une offre à sa juste valeur qui représente un prix stressant pour le propriétaire vendeur, parce que on va être capable justement de justifier que c'est un prix qui est à sa juste valeur. Sinon, s'il fait un prix en bas de la valeur, c'est sûr que bien entendu, il faut s'organiser pour pas que ce soit trop bas, parce que faut lui expliquer à son acheteur, à votre acheteur, comme quoi que si on fait une offre trop basse, ben qu'il risque d'avoir une contre-offre irréaliste, puis que finalement, il risque d'y perdre en avantage au niveau du prix éventuellement. Donc, lui expliquer vos stratégies au niveau du prix, puis ensuite lui demander sa position, le prix qu'il veut offrir, puis de lui faire une démonstration que vous allez faire tout ce que vous pouvez faire en tant que professionnel de l'immobilier pour pouvoir le représenter et négocier le prix qu'il aimerait bien payer pour la maison. Profitez-en pour lui demander des arguments, profitez-en pour lui demander qu'est-ce qui fait que bon, il va offrir ce prix, puis pas aller en contre-offre, qu'est-ce qu'il va vouloir corriger sur la propriété, des choses comme ça. Puis peut-être que, bon, avec ses arguments, plus qu'est-ce que vous allez utiliser comme argumentation, ça va aider à la négociation. Inscrivez toutes les dates et essayez d'inscrire des délais raisonnables sur votre promesse d'achat. Et confirmer aussi avec les acheteurs, tant qu'à y être, c'est terminé, là, la promesse d'achat, la rédaction de la promesse d'achat, les montants qu'il va avoir à investir pour accepter cette transaction, cette promesse d'achat. Donc, dans cette condition, dans cette façon de fonctionner, c'est plus l'objectif de rassurer l'encadrement et ensuite, ben, vous allez être prête pour justement aller présenter votre promesse d'achat et aller la négocier. Ce qui nous emmène dans la cinquième partie, et là c'est vrai, on va aller à la petite pause parce que j'ai fait un volet un petit peu plus long que d'habitude. J'imagine que, comme moi, vous avez besoin d'une petite pause, parce que moi j'en ai besoin d'une petite longue pause. Je vous invite d'ailleurs à faire comme moi, vous détendre, avoir du plaisir. Je vous vois peut-être tantôt, je vous vois peut-être plus tard, mais c'est sûr que je vous revois bientôt. À tantôt tout le monde, du moins à bientôt.